bien. Alors, on va pouvoir reprendre. Je signale aussi que je vais continuer pour montrer que cette présence des cartes ne va pas disparaître. C'est pas à part les deux éditions 1780 puis 1797-98 espagnoles, ouvre une nouveauté pour les éditions de Guichotte et qui va être reprise. Et on peut s'en rendre compte dans un très beau catalogue qui avait été lié à une exposition de la Biblioteca Nacional à Madrid en 2005, qui était l'année quichotesque par excellence, avec la célébration de la première édition 1605, qui s'appelle Los Mapas del Quijote, et qui donne une série de ces cartes. Dans la première moitié du 19e, et je n'irai pas au-delà, il y a de nombreuses éditions du Quichotte qui introduisent des cartes avec les deux possibles modèles, soit le modèle 1780, Vicente de los Ríos, Thomas López, 35 lieux, soit le modèle de l'édition de 1797-98, Pellicer, et les 45 lieux, celles que vous avez sous les yeux. Alors pour revenir, il y a donc deux familles qui sont à la fois des familles où se rencontrent des éditions en espagnol, même si elles ne sont pas publiées en Espagne, et aussi des traductions du Quichotte. Dans la première famille, c'est-à-dire celle qui reprend l'itinéraire et les étapes de 1780, de l'édition de la Royal Academy, on trouve en 1801 une traduction anglaise publiée à Londres par William Miller, qui est en même temps l'éditeur de Dryden, de Richardson et aussi de Shakespeare, et qui reprend dans cette édition de 1801 la dernière traduction du texte du XVIIIe siècle, c'est-à-dire celle de Jarvis en 1742, avec la formule rituelle « New carefully revised and corrected », nouvellement corrigé et révisé. Et on trouve dans cette édition une carte, map, de cette partie d'Espagne qui contient les « travels », les voyages de Don Quichotte, avec les lieux, the situations de ces différentes aventures. La date est indiquée d'après la carte de Joseph de Hermosillas. On a donc ici une carte qui reprend les 35 sites et qui est annoncée, c'est une des nouveautés, sur la page de titre, en même temps une nouvelle vie de Cervantes, critique du Don Quichotte et un plan chronologique de l'œuvre, en même temps qu'il dit aussi que l'édition est embellie, embellished, ornée avec de nouvelles gravures et une carte d'une partie de l'Espagne, a map of part of Spain. Alors, on peut ici faire une parenthèse, c'est-à-dire le fait qu'au XIXe siècle, aussi bien en Angleterre qu'en France, il y a une forte compétition entre les éditions du Quichotte qui se multiplient dans le texte original ou dans les traductions, et qu'évidemment, des arguments dans cette compétition sont soit de prétendre que le texte est le plus exact possible, référé à ce que Cervantes aurait ou voulait écrire, et d'autre part, que la présence des séries d'illustrations qui peuvent, elles, ce serait un entier cours, infléchir les réceptions ou les interprétations du texte indépendamment de l'originalité ou de la beauté de la gravure. Et s'ajoute aussi, et c'est là l'ambiguïté de cette période, c'est-à-dire que ce sont des éditions faites pour la lecture, mais qui en même temps sont des éditions qui se donnent comme savantes, puisqu'elles accompagnent le texte de tout un ensemble de paratextes qui vise à établir la réalité historique de la vie de l'auteur, l'authenticité des descriptions de l'histoire, et en même temps une critique philologique ou littéraire du texte. Alors dans cette même série, c'est-à-dire qui reprennent le modèle 1780 de l'Académie royale, on trouve une édition du texte en espagnol à Berlin en 1805 et en France des éditions en espagnol de Didot 1827, Firmin et Jules Didot, avec une réédition en 1832. Sur la page de titre, il est dit édition en miniature, donc clairement des éditions qui sont faites pour être lues, le texte de Cervantes fait pour être lu, et donné comme entièrement conforme à la dernière édition, celle publiée par la Real Academia Española. Ce n'est pas celle de 1820, mais celle qui ont suivi au cours de 1780, mais celle qui ont suivi au cours du début du XIXe siècle. Ce qui est intéressant dans ces éditions des Didot, donc en espagnol, on peut donc le penser évidemment pour une partie du public français qui peut lire ou veut lire le Quichotte en espagnol, mais fondamentalement pour l'exportation en Espagne ou dans les pays d'Amérique espagnole, qui est un des domaines importants de la librairie française du premier 19e siècle, plus, autant que les Didot vont s'y illustrer les différents membres de la famille Garnier, qui vont non seulement ouvrir des librairies dans les pays de langue espagnole, mais aussi à Rio de Janeiro, et publiant en portugais pour ce lectorat. Dans cet aspect des éditions des Didot, on voit pour l'édition de 1827, qui est leur première édition en espagnol, qu'il y a une utilisation d'un style pour la reliure, qui est ce que l'on appelle le style cathédral, c'est-à-dire une sorte de référence au gothique. Et ceci est intéressant pour une double raison. D'une part, parce que du coup, ça transfère le texte ou ça le situe autant dans le temps des romans de chevalerie du XVe siècle ou que dans le temps contemporain, qui est celui supposé par Cervantes. Il y a donc là le renforcement de la dimension médiévale du texte par cette ornementation de la reliure ou de la composition de la page de titre. Et d'autre part, comme l'avait montré une étudiante brésilienne qui a fait une thèse sur ce sujet, la pluralité des reliures pour un même texte et une même édition au XIXe siècle devient un élément essentiel, et on pourrait d'ailleurs de ce point de vue-là, critiquer peut-être le concept de paratexte chez Genette, qui oublie cette dimension-là, qui est pas vraiment un texte, mais qui est que la reliure, en particulier la reliure industrielle, lorsqu'elle est voulue par l'éditeur, pas des reliures décidées par les acheteurs, mais la reliure industrielle, avec les iconographies ou les styles qui y sont imposés, ou aussi avec le luxe et le coût qui peut y être attaché, est un facteur discriminant pour une même édition, pour un même texte, par rapport à différents usages et différents marchés. Reliure pour les livres d'étrennes, reliure pour les livres de prix, reliure pour les collections des bibliophiles ou reliure plus ordinaire pour les acheteurs communs du texte. Il y a donc une importance à attacher au XIXe siècle à ces catalogues d'éditeurs qui, pour une même édition, pouvaient énoncer jusqu'à 7, 8 ou 9 prix différents liés à des reliures différentes et donc envisageant des usages différents du texte. Donc, première famille, le modèle 1780. Une deuxième famille, modèle 1797-98, 45 lieues, cette image que vous avez ici. On en trouve une illustration dans une édition du texte en espagnol par le libraire parisien Bossange, Bossange et Masson, 1814. Et on voit naître aussi là la liaison entre les deux éditions 1780, 1797, 98, puisque cette édition Bossange reprend les éléments qui sont à la fois des éléments que l'on rencontre chez Pélissère. Par exemple, il est mentionné explicitement qu'on a ajouté dans cette édition les notes critiques et curieuses écrites par Pélissère pour l'édition de 1797-98. Mais par ailleurs, les autres paratextes sont ceux de Vicente de los Ríos de l'édition 1780, le jugement critique, le plan chronologique ou la vie de Cervantes. La carte qu'on trouve dans cette édition est une carte nouvelle signée par Ambroise Tardieu, qui était à la fois un cartographe du ministère de la Marine et en même temps un vendeur, un commerçant d'estampes et de cartes à Paris. Il s'inspire évidemment de cette carte-là, mais la redessine à sa manière. Et pour la première fois, je crois, les trois salidas, les trois voyages de Don Quichotte sont distingués par des tracés de couleurs différentes, orange, bleu et ocre, alors qu'ici, vous avez évidemment des couleurs différentes, mais les itinérances de Cervantes sont sur le brun, les autres sont des délimitations administratives, vous voyez, pour marquer la présence du royaume de Valence ou pour le royaume d'Aragon. Donc, l'usage des couleurs est différent. Dans le cas de cette édition d'Ido, Bossange, il est pour marquer les trois salidas successives. On retrouverait ce modèle 1797-98 dans une traduction en français publiée à Paris en 1821 et qui là a une nouveauté, c'est-à-dire qu'on ombre les reliefs de façon à ce que la carte n'ait pas cet aspect évidemment où on tente de donner une idée des différents reliefs par des procédés assez rudimentaires, mais avec une sorte d'effet d'ombre qui donne une présence plus forte aux sierras, aux montagnes ou aux accidents du relief. Et on trouverait toujours ce modèle 97-98 dans une édition à Paris de Merquignon en 1822 et qui là veut se... et qui a d'ailleurs aussi... on trouve en vente à Londres, dans le magasin de Bossange. Et c'est une édition qui se prétend neuve dans le sens que la carte serait dessinée d'après les observations faites sur le terrain par Bory de Saint-Vincent, qui était un naturaliste et un militaire français, et elle est annoncée au titre, ornée de 12 gravures et de la carte du voyage. Et finalement, la traduction qui est donnée là est une traduction nouvelle. C'est la quatrième traduction en français. Vous vous souvenez qu'on avait commencé ce cours aussi par une évocation de cette géographie qui est liée avec aux traductions qui étaient... les premières traductions sont celles de Houdin et Rosset pour les premières et deuxièmes parties, 1614-1618. On a au XVIIe siècle, en 1681, une traduction de Fillot de Saint-Martin, proche des milieux jansénistes. Et je l'avais déjà évoqué, en 1799 est publiée la traduction de Florian, libre traduction, puisque, comme je vous l'avais mentionné, Don Quichotte ne meurt pas à la fin du livre dans la traduction de Florian, ce qui permettait d'envisager des continuations aux histoires. Et là, la traduction est due à un ingénieur des ponts et chaussées, qui se dit professeur à l'Académie royale et militaire, qui a été professeur à l'Académie royale et militaire espagnol et qui, enfin, pour nom Bouchon du Bournial, Et c'est la quatrième des traductions françaises. On retrouverait d'ailleurs cette distinction entre les éditions qui suivent la carte de 80 et sa division en 35 lieues, et la carte de 97-98 et sa distinction entre 45 lieues, dans les premières éditions américaines du texte espagnol. La première édition américaine du texte espagnol, c'est 1836 à Boston. Six libraires s'associent et la carte est une carte qui renvoie aux éditions Bossange, elles-mêmes appuyées sur la carte de 1798. En revanche, la première édition en espagnol à Mexico en 1842, première édition avec une carte, est celle de Tomás López de 1780. On pourrait continuer cette histoire dans la seconde moitié du 19e, 20e siècle, mais comme manière d'introduction à ce qui va suivre dans les prochains cours, je m'arrêterai simplement sur un exemple, parce qu'il est différent, c'est 1880, et publié un livre à Madrid qui a pour titre « Cervantes viajero »,« Cervantes voyageur », de Manuel de Foronda. Et il y a une carte, mais c'est la carte des voyages de Cervantes, « Bosquejo de los viajes de Cervantes », et où a été cartographié pour la première fois, je pense, les différents voyages que l'on peut établir dans la biographie de Cervantes. En 1569, le voyage qui le mène de Valencia à Rome, en passant par le Languedoc, la Provence, Milan, pour arriver à Rome, ce qu'on retrouvera d'une certaine manière dans un texte dont j'aimerais parler, qui est les travaux au sens des épreuves de Persiles et Sigismunda, et où les pèlerins font, au moins pour partie, le même itinéraire depuis l'Espagne jusqu'à Rome. En 1571, la carte montrait le voyage de Cervantes de Naples à Messine, puis dans l'Adriatique et la bataille de Lépante, dans lequel il perdra la main gauche, et ce qui suivra, c'est-à-dire un ensemble de campagnes militaires à Corfou ou à Tunis. Et cet épisode se termina en 1575, lors du voyage de retour en Espagne de Cervantes, après ce temps militaire, et sa capture au large des côtes des Baléares, par les pirates barbaresques. Et sur la carte, d'ailleurs, dans le livre, on a une croix qui montre le lieu supposé près des côtes des Baléares où le navire de Cervantes a été arraisonné par les pirates qui entraînent ce séjour de 5 années dans les bagnes d'Alger. Et la carte montre aussi son retour en 1580, racheté par les Trinitaires, et le retour à Vélez, Malaga, et finalement à Valence. Et puis, il y avait en cartographié des voyages à partir de 1581, qui sont à la fois des expéditions en terre africaine, à Mostaganem, à Oran, et possiblement, mais là, je pense qu'il n'y a pas une attestation absolue, qui est un voyage qu'il aurait mené, toujours comme militaire, de Lisbonne jusqu'aux Açores. Je cite cette carte de 1880 pour montrer qu'effectivement, après les cartes de Don Quichotte, les cartes de l'auteur peuvent devenir présentes dans l'horizon de réception du Quichotte, mais aussi parce que dans ce jeu subtil de décalage entre des traits autobiographiques et des inventions de fiction, particulièrement dans le Persiles et Sigismunda, qu'il y a comme des jeux d'écho entre les voyages réels de Cervantes et les voyages imaginés des pèlerins du Persiles. Je termine ce point aujourd'hui sans doute par un retour finalement au premier texte, au texte de Borges, mais simplement pour essayer de comprendre comment cette confusion entre le monde du texte et le monde du lecteur, lorsqu'elle implique la présence de la carte, peut opérer sur des lecteurs de l'histoire, à commencer par ses éditeurs, Vicente de los Ríos ou bien Pellicer, et du coup sur les lecteurs qui lisent leurs éditions avec leurs cartes et leurs paratextes. Je crois que le plus intéressant, ce qui nous ramène à la première carte qu'on n'a pas vue, 1780, Vicente de los Ríos, dans ce cas, c'est l'exemple le plus poussé dans lequel la plausibilité de la narration est mesurée ou jugée à partir de l'exactitude ou non des distances sur la carte en durée de voyage. Puisqu'on a sur la carte une échelle qui est lieu qui correspond à une heure de chemin entre dans un grado qui correspond à 8 cm, sont représentées des distances qui représentent 20 heures de voyage. Donc il y a une conversion de l'espace cartographié en un temps possible. Et du coup, c'est cette mesure-là que Vicente de los Ríos applique pour juger de la plausibilité, de la vraisemblance ou non du récit de Cervantes. Parce que dans cette analyse, il y a un double postulat. C'est un lecteur borgésien, Vicente de los Ríos, dans ce sens-là. D'une part, il définit le Don Quichotte comme un roman ou une histoire contemporaine. Pour lui, puisque Cervantes a imaginé un héros moderne et que dans le Don Quichotte, on fait souvent allusion à des faits récents, sucesos recientes, il y a une contemporanéité entre le temps de l'écriture et de la lecture et le temps du roman. Je veux dire roman pour simplifier, même si, comme on sait, pour que le jeu fonctionne, il faut que le texte soit présenté comme une histoire fondée sur des documents, conduisant à des discussions érudites et écrites pour la plus grande partie par un historien, Sidé Amete Benen Reni. Bon. Mais l'idée fondamentale de Vicente de los Ríos, c'est que le texte est un texte contemporain et donc du coup que ce qui est narré correspond aux années 1604, début 1605. La deuxième postulat de Vicente de los Ríos, c'est que l'on peut prendre littéralement les indications chronologiques que l'on rencontre dans l'histoire, et du coup, dans son plan, il donne ce qu'il appelle un compute des trois sorties. La première, les 28-29 juillet 1604, la deuxième, le 17 août 2 septembre 1604, 17 jours, la première 2 jours, et puis tout ce qui est la troisième sortie dans la deuxième partie, du 3 octobre au 29 décembre 1604, 87 jours, et Don Quichotte meurt le 8 janvier 1605. Il y a donc ce double postulat que l'on peut transformer en une chronologie mensuelle ou annuelle les indications données par Cervantes, et que comme le roman est contemporain, on m'en peut donner la date pour les années 1604-1605. Et du coup, le vertige commence là, puisque le texte de la fiction est jugé à l'aune de cette exactitude chronologique. Ce qui fait que Vicente de los Ríos relève les erreurs chronologiques ou géographiques de Cervantes. Pourquoi ? D'abord parce que dans de nombreux passages, le temps donné par Cervantes pour la distance à parcourir est beaucoup trop bref. Et il appelle ça des hieros geográficos de Cervantes. Par exemple, chapitre 29 de la seconde partie, c'est un notable hiero de geografía, une erreur notable de géographie. Je traduis. Cervantes divise en 5 journées la distance qu'il y a entre l'auberge où il a assisté au retable de Maese Pedro, des marionnettes, et le fleuve de l'Ebre, et l'ouverture de et l'aventure de la barque enchantée, ce qui correspond à 14 lieues de voyage pour chaque journée, alors qu'il est impossible que Rocinante et l'âne de Sancho, aient pu faire autant de chemin en si peu de temps. Dans le chapitre 50, il note en même type d'erreur pour ce qui est le voyage du page qui a été envoyé par la duc et la duchesse. C'est le moment où Don Quichotte est dans la cour du duc et de la duchesse qui se moquent abondamment de lui. Et il écrit, Sancho écrit une lettre à sa femme et un page est envoyé par le duc et la duchesse pour porter cette lettre de Sancho. Et dans la narration, Vicente de los Ríos se rend compte que l'on donne 6 jours pour ce voyage du page, d'où, je cite, « ce qui ne peut être, puisque le village de Don Quichotte dans la Manche est proche du Toboso et que le palais des ducs se situe en Aragon au bord de l'Ebre. » Donc 6 jours sont tout à fait insuffisants. À ces erreurs géographiques correspondent aussi des confusions. Et l'une relevée au chapitre 9, c'est lorsque Don Quichotte et Sancho se dirigent normalement pour aller au tournoi, aux joutes de Saragosse, alors que toutes les aventures qui leur adviennent sont non pas dans cette direction qui mènerait vers le nord, mais se situent au sud, entre Toboso et les lagunes de Ruidera. Confusion géographique de Cervantes, qui prend le nord pour le sud et inversement. À ces erreurs de géographie, de los Ríos ajoute les erreurs de chronologie, à partir du schéma qu'il a défini. C'est-à-dire que, par exemple, Cervantes place la fête du Corpus Christi en juin, alors qui est à lieu en juin, en octobre. Ou alors il place des épisodes de la réception du duc et de la duchesse en été alors qu'ils sont survenus à l'automne. Ou encore il place l'épisode de Don Quichotte prisonnier de Roque Guinard, le bandit de grand chemin catalan qui va le conduire ensuite à Barcelone, la veille de la Saint-Jean en juin alors que l'adviennent ses aventures en novembre. Et finalement, il y a l'idée que Cervantes est un auteur négligent qui multiplie los descuidos, les fautes d'attention, et qui pêche contre la vraisemblance. Et de là, l'énumération des oublis de Cervantes. Cervantes s'est confondu dans les dates de la lettre de Sancho à sa femme. Cervantes se confond fait erreur dans la durée du gouvernement de Sancho, dans l'île de Barataria. Voilà ce qu'il écrit. Toujours ici, on est avec une faute, un manque d'attention. Tout ce passage de Cervantes est très erroné, muy errado. Et finalement, il oublie aussi parfois qu'il a déjà écrit une scène, puisque, par exemple, il répète au chapitre 46 et au chapitre 50 le même épisode de l'envoi de la lettre de la duchesse à la femme de Sancho, à Teresa Panza. Donc, à la fois des invraisemblances en relation avec le réel, c'est-à-dire des durées de voyage qui sont impossibles pour la longueur des dits voyages, et que l'on peut démontrer sur la carte en usant de l'échelle et en montrant ainsi l'invraisemblance, mais aussi non seulement ces invraisemblances par rapport au monde réel, mais des anachronismes internes à la fiction, puisqu'à un moment donné, Vicente de los Ríos évoque que Cervantes pêche contre la chronologie de la fable elle-même. C'est intéressant parce qu'on retrouve là, à la fin du XVIIIe siècle, mais alors dans une nouvelle modalité, qui est cette modalité de la rigueur de la science, pour reprendre le titre du texte apocryphe, on retrouve là une dénonciation sur la base de cette exactitude géographique transformée en une mesure chronologique, ce qui, dès le 1605, était apparu c'est-à-dire la critique contre la négligence, les manques d'attention, les répétitions, les oublis de Cervantes dans sa narration. Dès 1605, comme je peux l'étudier d'autre part et comme Francisco Rico l'a magnifiquement montré, que les épisodes autour de l'âne volé à Sancho, mais qui est toujours présent avant même qu'il l'ait récupéré, avaient été transformés en une des armes des critiques hostiles à Cervantes, à commencer par Lope de Vega et l'entourage de Lope de Vega, qui se moquait de cette négligence et, dans un certain sens, de cet mépris du lecteur. En fait, cette accusation sur des points de ce type-là, par exemple l'âne volé présent avant sa réapparition, renvoyait à quelque chose de plus profond, c'est-à-dire finalement, sans aller dans une analyse bourdieusienne excessive, que Cervantes, on l'a vu avec ce que j'évoquais des voyages, est un outsider dans le monde lettré ou littéraire, avec un anachronisme du mot, du début du XVIIe siècle à Madrid. Et donc, du coup, qu'il cristallise contre lui les moqueries de ceux qui sont des insiders ou des established dans cet univers, à commencer par Lope de Vega. C'est un auteur sans passé, puisque la Galatea, qui n'avait pas attiré particulièrement l'attention, date de 1585. Donc c'est 20 ans après qu'il publie un premier, qui est en fait un second, livre avec le Don Quichotte. Donc ces aspects anecdotiques de la critique renvoient d'un côté à ce qui est les fractures à l'intérieur du monde lettré entre ceux qui se réfèrent à une tradition des lettres humaines, lettras humanistas, et de l'autre côté, ce nouveau venu dans cet univers. Et cela peut se référer aussi, comme l'avait souligné Francisco Rico, à une manière de composer une fiction qui est celle de Cervantes et qui est plus proche, dans un certain sens, d'une production d'effets d'oralité, d'une construction lâche, décousue, faite de parenthèses, digressions, additions, et qui s'écrit, comme il le dit dans une très belle formule, Rico, dans la prose domestique de la vie, ce qui fait sans doute l'effet de rupture, l'effet de nouveauté radicale du texte qui ne reprend aucune des esthétiques en place pour la fiction, que ce soit l'esthétique du roman de chevalerie, principale cible de la parodie, que ce soit l'esthétique de la pastorale, qui était celle que Cervantes avait maniée lui-même dans la Galatea en 1585, ou même que ce soit ce style entre guillemets réaliste de la picaresque, depuis le Lazarillo de Tormes jusqu'au Guzmán de Alfarache. Aucune de ces esthétiques n'est présente, sinon comme objet de parodie et de satire, dans le Quichotte. Donc, au XVIIIe siècle, on voit que cette critique déjà née sur les négligences de Cervantes devient plus puissante et plus aiguë à partir du moment où elle prend en charge ou où elle s'organise à partir de ses exactitudes géographiques, chronologiques et historiques. On peut en trouver un écho d'ailleurs dans la préface de la traduction française de Florian de 1799, qui est assez paradoxale puisque, comme je le disais, cette traduction prend les plus grandes libertés avec le texte, mais en même temps, dans sa préface, Florian évoque, dans une note assez longue, que l'on a évidemment relevé depuis longtemps des inexactitudes ou des erreurs dans le récit de Cervantes. Il mentionne évidemment l'épisode de l'âne, il mentionne l'incertitude sur le nom de la femme de Sancho, qui en a trois ou quatre différents au fil de l'histoire. Et pour lui, il dit d'une part que l'on voit bien que, je cite quasiment, Cervantes ne relisait pas ses brouillons, c'était une formule qu'emploie Florian, et d'autre part, il dit que ces erreurs ont été relevées, je cite, par le savant auteur espagnol de l'analyse de Don Quichotte, c'est-à-dire en fait Vicente de los Ríos dans son texte de 1780. Alors, si on se déplace sur l'édition de 97-98 de Pélisser, par rapport, pour comprendre ce qu'il fait avec cette critique fondée sur un jugement d'exactitude chronogéographique permettant de démentir la fiction. On est en quelque sorte là dans un univers popérien où la fiction est soumise à des critères de véridiction. Pélisser est plus habile évidemment que Vicente de los Ríos parce qu'il réintroduit la dimension de l'écriture d'imagination ou d'invention. Je cite son texte dans sa chronologie. Si l'on devait calculer avec rigueur la durée de la fable, il en résulterait l'évidence de nombreux anachronismes, très dissonants, énormes. On doit donc considérer sa chronologie non pas comme celle d'un historien qui suit avec exactitude la raison et l'ordre des temps, mais comme celle d'un poète qui a coutume de les inverser et bouleverser, comme fit Virgile avec Didon et Énée. C'est un texte intéressant parce qu'on voit que Pélisser reprend la distinction entre l'histoire et la poésie, classique dans l'héritage de la poétique aristotélicienne, utilisée très souvent par Don Quichotte lui-même dans ses discours, considérée comme fondamentale par Cervantes pour opposer l'exactitude de l'histoire qu'il écrit avec les libertés que le poète peut prendre avec les fables. Donc on retrouve là une dichotomie qui est endogène au XVIIe siècle, mais qui est reprise à la fin du XVIIIe siècle dans une figure inversée, puisque ici, c'est la fable qui est donnée comme poétique et à distance des exigences de celle de l'histoire. Ce qui est détruire, dans un certain sens, ce qui était au fondement même de l'écriture de Cervantes, qui voulait, avec ironie ou non, que le texte soit pris comme une histoire. Et Pélisser répète la même observation pour la géographie. Et la géographie de Cervantes ne peut pas être exacte, car, je le cite, d'un poète et auteur de fables chevaleresques, on ne doit pas attendre le respect rigoureux des lois géographiques qui s'imposent à l'historien et chroniqueur des faits vrais. Du coup, il est tout à fait admissible, compréhensible, qu'il y ait dans le texte des contradictions, des inconséquences, des obscurités. Je cite, dans la situation des lieux où arrivèrent les aventures, car on doit croire que comme celles-ci sont chimériques, les aventures, de nombreux lieux où elles arrivèrent, le sont aussi. Et donc l'abandon de la quête d'une transcription géographique exacte, doublée d'une adéquation chronologique de ce que l'on rencontre dans l'histoire. Et Pélisser ajoute, au moins, il me semble que c'est ainsi que Cervantes s'excuserait des fréquentes erreurs de géographie que lui impute Ríos. Donc, dialogue entre les deux éditions, 97-98 versus 1780, restitution de l'histoire comme fable, et donc, du coup, on ne peut pas la soumettre à la paupère, à des critères de véridiction qui seraient ceux d'une exactitude demandée, exigée pour l'histoire. Mais, en même temps, du coup, comme conséquence, le fait que dans le texte de Pélisser, il n'y a plus de date, il n'y a plus de durée qui soit appliquée ou extraite de l'histoire elle-même. Du coup, son texte devient, comme je le suggérais déjà, une série d'observations érudites, géographiques et historiques, qu'il fonde sur sa connaissance des collections de la Bibliothèque du Roi, dont il est le bibliothécaire, mais aussi sur les connaissances de la bibliothèque de l'Académie d'Histoire, ce qui peut-être le mène à la fois à citer des documents manuscrits, comme les Relaciones, ou à citer des chroniques ou des annales érudites. Et on voit, au fil de son texte, qui suit les trois sorties de Don Quichotte, de très longs développements de ce type érudit, géographico-historique. On l'a vu sur les lagunes de Ruidera et la grotte de Montesinos. Il commence son texte par une longue discussion sur quelles sont les limites historiques et géographiques de la Manche. Il ajoute des traits sur la Sierra Morena. Et puis, un passage particulièrement intéressant, il s'étend beaucoup sur les trois villes de ce qu'il appelle le Campo de Carignana, qui est juste avant le passage de l'Ebre par Don Quichotte. Et il donne d'assez longues notices historiques sur les trois villes de ce Campo de Carignana, la ville de Carignana elle-même, la ville de Cosuenda et la ville de Encina Corba. Et il se permet ces développements non pas parce qu'on vient, comme pour les lagunes de Ruidera, éclairer, éventuellement prendre distance par rapport à ce qu'en dit Cervantes, mais justement parce que l'histoire ne nous dit rien de ces trois villes. Pélissère s'étonne que pendant les deux jours qui précèdent le passage de l'Ebre par Don Quichotte, il n'y a sous la plume de Cervantes ni aventure, ni discours. C'est donc un silence dans l'œuvre. Simplement deux jours qui sont indiqués vides. Et du coup, il remplit ce vide par ses annotations érudites, les justifiant ainsi. On suppliera cette longue inaction et long silence en se référant aux singularités de ces trois villes. Comme si finalement Pélissère écrivait dans un manque, dans un blanc, dans un silence du texte, deux jours sans rien, personne ne discourt, personne ne produit aucune aventure. On remplissait ce blanc et ce silence par ces trois notices érudites sur les villes du Campo de Carignana. Mais donc c'est une sorte de forme de retour à une articulation entre l'érudition qui dit le réel et la fable qui narre des aventures imaginées, puisque dans le silence de la seconde, on peut introduire des éléments de la première. Et l'on voit que finalement, même s'il a pris cette distance radicale par rapport à Vicente de los Ríos, pensant que ce relevé des erreurs géographiques et chronologiques était vain, il reste quelque chose dans le commentaire de Pélissère, de cette confusion entre le monde du texte et le monde du lecteur, c'est-à-dire le monde réel. On le voit parce qu'il cherche, malgré sa déclaration, à identifier dans le réel les lieux de la fiction. Par exemple, pour le palais du duc et de la duchesse, dans la seconde partie, qui est le moment où Cervantes devient, enfin, où Don Quichotte devient un Don Quichotte de cour, et où en même temps se construit l'intrigue de Sancho, gouverneur de l'île de Barataria, qui est une des inventions comiques des ducs et de la duchesse. Et Pélissère identifie le lieu qui n'est pas identifié du tout dans le texte de Cervantes comme étant le palais de Buenavilla des ducs de Villahermosa. Tout concourt pour conjecturer que les hôtes de Don Quichotte étaient ces seigneurs-là, c'est-à-dire les ducs de Villahermosa. Cette hypothèse réaliste vient s'introduire dans le silence de l'histoire, dans ce cas-là, l'absence de précision donnée par Cervantes à cette halte. Et par, à ce moment-là, il y a un autre silence dans l'histoire qui n'est plus le silence des deux jours qui précèdent le passage de l'Ebre, mais qui était le silence sur comment Don Quichotte a cheminé entre ce passage de l'Ebre et le palais des ducs. Et dit Pélissier, Cervantes ne nous dit rien s'il est passé par la rive supérieure de l'Ebre ou par la rive inférieure ou s'il s'en est écarté. Il annonce que Pélissier, la historia nada especifica. L'histoire ne spécifie rien. Il trouve la solution à cet autre silence ou à cet autre blanc de la fiction grâce à son identification du palais des ducs comme étant le palais de Buenavilla, des ducs de Villahermosa. La solution au silence de la fiction est trouvée dans l'identification avec le réel. Voilà ce qu'écrit Pélissier. On peut présumer que notre chevalier errant s'est écarté de l'Ebre, descendant par le long de sa rive en direction de Saragosse, puisque ses seigneurs étaient les ducs de Villahermosa qui résidaient à Pedrola. Et donc, du coup, c'est à partir de son identification réaliste que Pélissier donne une solution interne à la fiction qui est celui de quel trajet, quel itinéraire a pu suivre Don Quichotte. Du coup, on voit qu'on retrouve là la puissance de l'effet désigné par Borges dans les Marias Parciales del Quijote, puisque cet effet s'exerce même sur ceux qui affirment l'illusion de la fable, et qu'affirmer de manière radicale, drastique, l'illusion de la fable, comme le fait Pélissier, n'empêche pas de constamment la projeter dans le réel ou projeter le réel à l'intérieur du texte, en y cherchant des identifications géographiques et historiques, ou bien finalement en en remplissant certains interstices ou certains vides par des références au lieu à peine mentionné par Cervantes dans sa narration. Donc je crois que c'est là une démonstration dans ce dialogue que j'ai établi entre Vicente de los Ríos dans l'édition de 1780 de l'Académie et avec le texte de la description historico-géographique de Pélissier dans l'édition de 1797-98. C'est une manière de montrer que même lorsque des positions très différentes sont prises sur le rapport de la fiction au réel, dans le cas de Los Ríos, c'est une fiction contemporaine qui épouse la réalité. Et à partir de là, on peut la critiquer lorsqu'elle s'en égare ou s'en éloigne et commet des hierros, des erreurs géographiques et chronologiques. Dans le cas de Pélissier, c'est réaffirmé que cette histoire est une fable et qu'on peut la comparer à Virgile, et non pas avec au récit des historiens et des chroniqueurs. Donc à partir de cette distinction forte de qualification, de caractérisation du texte de Cervantes, on voit que néanmoins, dans la seconde perspective, reste forte cette tentation, sans doute incitée par le texte lui-même, à le replacer dans le réel et à le nourrir avec du réel. Je vais en rester là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, j'aimerais évoquer, en s'éloignant des représentations cartographiques, des géographies, elles, discursives, c'est-à-dire des géographies qui sont produites dans et par les mots, et en nous éloignant du Quichotte, pour revenir à deux autres géographies cervantines, l'une déjà évoquée qui est celle du dernier livre de Cervantes, publié à titre posthume, Les Trabajos de Persiles y Sigismunda, mais trabajos dans le sens, non pas des, enfin on peut traduire par les travaux, mais c'est le sens des épreuves. Et d'autre part, les nouvelles exemplaires dont j'avais dans les premières parties du cours suivi le destin géographique, c'est-à-dire à travers les différentes traductions en français, en italien et en anglais. Donc revenons à l'intérieur même de la série des nouvelles qui composent les nouvelles exemplaires, ou des quatre parties qui organisent l'immense pérégrination depuis le nord mythique jusqu'à Rome chrétienne des pèlerins du Persiles et Sigismunda, on pourrait aborder une autre manière de construire les géographies littéraires. Donc, la semaine prochaine, à 10h, même lieu,